Chapitre 26. Lorsqu'elle quitta sa famille, Odile demanda l'hospitalité à une amie, Denise, jeune femme divorcée, qui lui conseillait depuis longtemps de prendre sa liberté. 2 mois s'écoulèrent paisiblement. Mais quelques jours avant le jugement, Marguerite fit savoir à Maître Herbst qu'elle se désistait. Il y eut un échange de lettres. Finalement, on apprit que Marguerite exigeait une somme supplémentaire de 15 000 francs. Elle prétendait que, pendant son mariage, pour subvenir aux frais du ménage, elle avait été obligée de vendre les valeurs formant sa dot et que, pour les racheter aujourd'hui, ce n'était pas 27 000 francs qu'elle devait débourser, mais 42 000. Elle reconnaissait qu'elle avait accepté de divorcer uniquement parce que son mari le désirait, car si elle n'avait écouté que son cœur, elle ne l'eût jamais fait, mais elle demandait qu'en échange, on ne la contraignît pas à réclamer sans cesse ce qui lui était dû. Il y avait 1 mois que le divorce avait été prononcé et il ne restait plus qu'un autre mois à attendre pour que les délais d'appel fussent passés lorsque M. Wurzel chercha à revoir Odile. Il se rendit un jour chez Denise. « Je ne sais pas, monsieur, si votre fille rentrera ce soir, » lui dit la jeune femme avec embarras, car, ayant affirmé à Odile que si elle était à sa place, elle ne retournerait jamais dans sa famille, elle était partagée entre le désir d'être aimable et celui de ne pas se contredire. Au même moment, un bruit de voix s'éleva dans l'antichambre. « C'est peut-être Odile, » dit-elle en sortant et en refermant soigneusement la porte du salon. C'était elle, en effet. Jean-Noël l'accompagnait. « Chut !» fit Denise. Puis, prenant son ami en particulier, « Ton père est là !» Odile regarda Jean-Noël. « Si tu veux le voir, » continua Denise, « je vais conduire Jean-Noël dans ma chambre. » Sur un fauteuil, il y avait des robes. « Toujours du désordre ici !» dit-elle en se poudrant et en se parfumant devant Jean-Noël comme devant une amie. « Tout cela est bien ennuyeux » continua-t-elle en prenant une cigarette. Jean-Noël lui offrit du feu. Elle refusa. « Je voudrais mes allumettes. »« Qu'est-ce qui est ennuyeux ?» demanda Jean-Noël sans lever les yeux, intimidé qu'il était par le sans-gêne et surtout par la beauté de Denise. « Ces histoires avec M. Wurzel, » répondit-elle. « Vous devriez, Jean-Noël, user de votre autorité pour qu'Odile rentre chez elle. Vous voyez, je suis franche, puisque jusqu'à présent je disais le contraire. »« Je n'ai aucune autorité. » Denise, qui donnait ses conseils en se regardant dans une glace, se retourna brusquement et avec une expression de surprise. « Vous voulez me dire à moi que vous n'avez pas d'autorité sur Odile ?» « Vous êtes aveugle. Vous ne voyez donc pas qu'elle vous adore ?» À la suite de la visite de son père, Odile rentra dans sa famille. M. Wurzel avait su parler à sa fille. Il lui avait dit qu'il regrettait d'avoir été si intransigeant, que, puisqu'elle était vraiment décidée à épouser Jean-Noël et que celui-ci était enfin libre, il ne faisait plus aucune objection à ce mariage. Ce qu'il avait craint quelques mois auparavant, c'était qu'elle n'eût eu pour ce jeune homme qu'un sentiment passager. Il lui avait ensuite demandé si elle croyait qu'il plairait à Jean-Noël d'entrer dans les affaires. Elle avait répondu qu'elle en était certaine, mais sans avoir l'air d'y tenir, afin que son père comprît que même si Jean-Noël refusait, elle ne l'en épouserait pas moins. M. Wurzel l'avait rassuré. Il lui posait ses questions parce qu'il songeait à son bonheur avant tout. On ne pouvait pas prévoir de quoi demain serait fait. Si l'argent continuait à se déprécier, que deviendrait-elle? Il fallait songer à l'avenir et ne négliger, autant que cela était possible dans une époque aussi instable, aucune précaution. Il ne demandait en outre qu'à revoir le jeune homme, qu'à s'entendre avec lui, qu'à le traiter comme un fils. Quand Odile transmit ses désirs à Jean-Noël, celui-ci ne manifesta aucune joie. Il n'était pourtant pas rancunier, mais en n'oubliant pas les affronts qu'on lui avait faits, comme il disait, il voulait montrer qu'il avait de la dignité. Pendant les semaines qui suivirent, il adopta l'attitude noble d'un homme offensé. Il ne se passait pas pourtant de jour qu'Odile ne le supplia de l'accompagner boulevard du Montparnasse. Elle était dans une situation délicate. Son père commençait à trouver étrange qu'on répondît par tant de hauteur à ses avances. à force de lui donner chaque fois des raisons différentes, elle craignait qu'il ne se lassât. Elle ne comprenait pas que Jean-Noël fît tant de cas de son amour-propre, puisque celui-ci nuisait à ses intérêts. Pour que M. Wurzel demeurât favorable au jeune homme, elle en était réduite à parler sans cesse des bonnes actions qu'il avait accomplies dans sa vie. Parmi celles-ci, il en était une qu'elle rappelait à chaque instant. Jean-Noël lui-même l'avait obligé de rentrer dans sa famille. Sans son insistance, elle serait restée chez Denise. Mais M. Wurzel lui fit remarquer qu'il trouvait bien invraisemblable que Jean-Noël eût songé à lui être agréable. « C'est naturel !» avait répondu Odile avec feu. M. Wurzel insinua alors que le jeune homme avait peut-être agi par intérêt. N'avait-il pas tout à gagner à ce que sa future femme fût en bons termes avec sa famille ? « Comment peux-tu soupçonner Jean-Noël de pareils calculs ? S'il était intéressé, ne crois-tu pas qu'il aurait commencé par chercher à te plaire ?» Quelques jours après cette conversation, Odile obtint de Jean-Noël qu'il retournât boulevard du Montparnasse. Il fut reçu très cordialement. Depuis le séjour qu'avait fait sa fille chez Denise, M. Wurzel avait compris qu'elle le quitterait plutôt que de renoncer à Jean-Noël. Au fond de lui-même, il avait bien la conviction qu'elle faisait ce qu'il appelait une bêtise, mais puisque telle était sa volonté, il n'avait qu'à s'incliner. Jean-Noël se montrait également très aimable. Odile en fut si touchée que le lendemain, elle désira faire la connaissance de Madame Mercier et d'Émile. Quoique Jean-Noël fût loin de s'en réjouir, elle insista. N'avait-elle pas le devoir de s'intéresser à tout ce qui touchait l'homme qu'elle aimait, même si en le faisant, elle lui était désagréable ? Jean-Noël venait justement de se rendre rue Mouton-du-Vernay pour annoncer son mariage, non sans fierté d'ailleurs, sa mère n'étant pas capable, selon lui, de faire une distinction entre des personnes de fortune égale. Il se trompait pourtant. Si Madame Mercier avait toujours vécu à l'écart, elle n'en avait pas moins regardé autour d'elle avec cette intelligence des gens qui voient sans être vus. Elle avait élevé son jeune fils de manière qu'aujourd'hui, c'était tout juste s'il ne croyait pas que c'était à cause d'on ne sait quelle erreur d'état civil qu'il ne portait pas le nom de Villemur. Aussi, quand Jean-Noël avait annoncé le nom d'Odile Wurzel, Émile avait-il eu une moue dédaigneuse. Jean-Noël ne se mésalliait-il pas ? Bien qu'Émile n'eût jamais seulement approché les Villemur, il avait pris l'attitude qu'il s'imaginait que ceux-ci eussent prise en une telle circonstance, voulant montrer ainsi qu'on avait été injuste de l'écarter, car lui, puisqu'il ne se fût jamais déclassé en épousant une demoiselle Wurzel, était au fond bien plus semblable aux Villemur que ne l'était son frère. Peu de temps après, sans rancune pour cet accueil, Jean-Noël remontait, accompagné d'Odile, le sombre escalier qui conduisait à la chambre de sa mère. Mademoiselle Wurzel avait la contenance d'une personne qui, par délicatesse, fait semblant de ne rien remarquer d'anormal dans ceux qui l'entourent, et elle gravissait les marches, un peu comme si elle les avait gravies toute sa vie. La chambre de Madame Mercier était dans un état de propreté extraordinaire. Le plancher avait été lavé et les rainures en étaient encore humides. Une photographie jaunie de Jean Melchior se trouvait sur la cheminée et, à côté, une branchette de buis béni. Émile, immobile près de la fenêtre, semblait n'être là que par hasard. Madame Mercier se leva aussitôt et offrit un siège à Odile. Elle ne prononça pas une parole pour s'excuser de la pauvreté de son intérieur, afin que la visiteuse comprît, non pas qu'elle n'était pas à plaindre, mais qu'elle ne demandait rien à des inconnus, et que, si elle en était réduite à accepter des secours, encore fallait-il qu'on fût digne de les lui offrir. Quant à Émile, il regardait Odile d'un air à la fois moqueur et respectueux, l'air de quelqu'un qui pense que pauvreté n'est pas synonyme de platitude. « J'espère, madame, dit Odile en voulant faire preuve d'une grande bonté, que vous viendrez à notre mariage ainsi que votre fils. » Ernestine Mercier hocha la tête, rougit, ne sachant pas quoi répondre, à la fois touchée et embarrassée par cette invitation. Car cette femme, à force d'avoir vécu dans l'ombre, à force d'avoir été repoussée par tout le monde, était émue dès qu'on lui témoignait le moindre égard et prise de méfiance. Émile, lui, répondit sur un ton cérémonieux qu'il irait peut-être, qu'il ne pouvait l'affirmer, car justement ce jour-là, il avait un certain rendez-vous qu'il ne croyait pouvoir décommander. Jean-Noël, les mains derrière le dos, arpentait la chambre. Parfois, il s'arrêtait, faisait une remarque, approuvait sa mère, puis repartait, ce qui donnait à ses interventions insignifiantes une petite apparence. Odile le suivait alors des yeux. Son seul désir était de lui plaire. Aussi ne regardait-elle rien de ceux qui eût pu l'humilier. Sous son amabilité et ses prévenances, on la sentait perdue. Le passé de ces gens l'intriguait, lui causait un peu de dégoût. Le souvenir de Jean Melchior volait dans cette pièce, un peu comme un oiseau des îles dans une cale. Il expliquait la soif de considération de Madame Mercier, les désirs insatisfaits d'Émile. Ces murs gris auxquels étaient accrochés des vêtements, ces deux lits, cette cuvette sur une table, tout cet intérieur où il n'y avait de place que pour les besoins indispensables du corps, semblait devoir demeurer éternellement tel qu'il était en cet instant, puisque celui qui eût pu ouvrir la fenêtre était mort. Odile sentait que, quoi qu'elle eût pu faire, on la considérerait toujours comme une ennemie. Vouloir du bien à Madame Mercier et à Émile, c'était vouloir les diminuer, les rendre semblables à tout le monde, leur ôter l'illusion qu'ils étaient victimes d'un drame familial. Le 3 décembre 1926, il fit un froid glacial. Jean-Noël s'était réveillé plus tôt que d'habitude dans sa chambre d'hôtel où rien ne semblait indiquer que cette journée compterait dans sa vie. Il s'habilla sans la moindre émotion. La seule chose qui le troublait un peu, c'était que sa mère et son frère devaient être présents au mariage. Odile était retournée chez Madame Mercier. Sa première visite lui avait causé beaucoup de peine ainsi qu'une grande désillusion. Pour cette raison, justement, elle avait revu presque quotidiennement Madame Mercier. Elle lui avait parlé avec douceur, avec l'espoir de faire de sa future belle-mère une femme dont Jean-Noël n'aurait plus à rougir. Dans son inexpérience, elle s'était imaginé que l'argent suffirait à faire ce miracle, que ce n'était qu'à cause de sa pauvreté que Madame Mercier était si peu présentable. Elle avait même dit à Jean-Noël, au retour de l'une de ses visites, « Mais votre mère est tout à fait comme il faut. Vous m'aviez tellement mis en garde contre elle que je m'attendais à tout de sa part. » Jean-Noël n'avait pas répondu, placé qu'il était entre le désir que le sort de sa mère fût amélioré et la crainte que celle-ci ne le diminuât. Avant de se rendre à la mairie du 5e arrondissement, où devait avoir lieu la cérémonie, seul dans sa chambre, ce qui avait quelque chose d'étrange dans cette circonstance, il se demandait quelle serait l'attitude de sa mère et de son frère. Quelques jours plus tôt, toujours sur l'insistance d'Odile, Madame Mercier et Émile avaient rendu visite à M. Vurzel. Jean-Noël n'avait pas voulu assister à l'entrevue, mais il se doutait de ce qui avait pu se passer. Puis il ne songea plus qu'à son mariage. Il devait être fort heureusement célébré avec simplicité. M. Vurzel avait pourtant été désireux de faire un grand mariage. Quand il s'était rendu compte que rien n'empêcherait sa fille d'épouser Jean-Noël, il avait voulu que les choses fussent faites comme elles doivent l'être. Ce n'avait été qu'après s'être aperçu que son consentement n'avait pas rendu Jean-Noël plus sympathique qu'il avait cédé à sa fille, laquelle, connaissant l'incompatibilité existant entre son fiancé et les siens, tenait avant tout à la simplicité. Une fois prêt, Jean-Noël sortit. La veille, il avait passé l'après-midi avec Odile dans un cinéma. En le quittant, elle lui avait dit « Demain, il faudra être exact. » Et il avait répondu avec un hochement de tête « Naturellement. » Sur ce mot, il était parti. Mais elle l'avait rappelé. « Surtout, n'oubliez pas de passer prendre votre mère. » Jean-Noël se rendit donc rue Mouton du Vernet. En montant l'escalier du modeste immeuble, il ressentit un malaise. Dans une heure, il allait se marier et il se trouvait dans cette maison. Il frappa à la porte. Sa mère était vêtue d'une camisole et d'une vieille jupe. « Tu n'es pas prête ? » demanda-t-il. Madame Mercier répondit qu'elle ne savait pas si elle irait à la mairie, qu'il n'avait d'ailleurs pas besoin d'elle, cela sans regarder son fils, car il lui imposait malgré tout. « Émile, où est-il ? » « Il va venir, il a été se promener. » Jean-Noël insista alors pour que sa mère s'habillât. Elle obéit, non sans faire des difficultés. Une semaine avant, Odile lui avait fait livrer des vêtements. Mais Madame Mercier n'avait même pas touché au paquet qu'on apercevait près de la porte, comme si on allait venir les rechercher. Peu après, Émile rentra. Lui non plus n'avait fait aucun frais de toilette. Jean-Noël fit semblant de ne pas s'en apercevoir. À 11 heures, ils entrèrent tous les trois à la mairie. Jean-Noël conduisit sa mère et son frère dans la salle attenante à celle où devait être célébré le mariage, puis il redescendit sur la place. Bientôt, M. Wurzel et sa fille arrivèrent. « Est-ce que mes fils sont là ?» demanda M. Wurzel. « Pas encore, » répondit Jean-Noël, sans oser dire que, par contre, sa mère, elle, était là. À ce moment, la grosse voiture rouge de Simon s'arrêta devant la mairie et les deux frères en descendirent. Maurice devait servir de témoin à Jean-Noël, celui-ci ayant déclaré qu'il n'avait pas d'amis assez intimes pour jouer ce rôle, ce qui avait surpris défavorablement les Wurzel. Finalement, tout le monde se retrouva dans un grand salon. À la vue de la famille Wurzel, Madame Mercier et Émile, qui étaient assises à l'écart, ne bougèrent pas. M. Wurzel fit semblant de ne pas les voir. « Papa, » dit Odile, « la mère de Jean-Noël est là. » M. Wurzel la chercha du regard, puis, comme s'il venait de l'apercevoir, il se dirigea vers elle, la salua. « Nous ne sommes pas en retard, » demanda-t-il pour dire quelque chose. Ce fut Émile qui répondit. Il aimait à paraître avoir des connaissances pratiques en tout. Comme s'il était un familier des mairies, il répondit « Nous ne sommes pas en retard, monsieur. Il reste encore à célébrer un mariage avant celui de mon frère. » Il avait été entendu que tout le monde déjeunerait boulevard du Montparnasse, mais Madame Mercier et son fils prirent congé après la cérémonie. À 2 heures, Simon conduisit les nouveaux mariés et M. et Mme Wurzel à l'église de l'Étoile.